réseau Initiative Vendée Bocage présente l'émission Positive Vibes, l'audace d'entreprendre ensemble au service d'une société positive.
Et bien bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Digue Radio dans cette émission spéciale Réseau Initiative Vendée Bocage depuis la communauté de communes de Saint-Fulgent. Très heureux de partager le micro ce soir avec l'excellente Stéphanie Neka. Bonsoir Stéphanie.
Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous.
Alors, quel est le programme de cette belle émission?
Alors, quel est le programme? Eh bien, un programme riche autour de ce thème particulièrement actuel de la RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises, qui va s'articuler ce soir en trois parties. Nous évoquerons tout d'abord l'idée d'entreprendre. Entreprendre, c'est revenir aux sources et développer toute une filière locale. Dans un second temps, nous proposerons un focus sur une entreprise remarquable qui, elle, aussi est soutenue par un parrain remarquable. Et enfin, nous poserons cette question de savoir si entreprendre peut aller, dans certains cas, jusqu'à devenir une mission.
Positive Vibes, quand entreprendre, c'est revenir aux sources et développer toute une filière locale.
Alors avec nous en plateau pour démarrer cette émission, donc Gilles Beau, dirigeant de la Scierie Mobile du Bocage et président de la SIC, la Société Coopérative d'Intérêt Collectif, baptisée Les Sens du Bois, accompagné par Morgane Gabart, qui est chargée de mission écologique industrielle à la Comcom du pays de Pouzauges. Donc déjà, bonsoir et bienvenue à tous les deux. Gilles, avant toute chose, est-ce que tu peux nous parler de la Scierie Mobile? Je suis sûre que tout le monde veut savoir ce que c'est que la Scierie Mobile.
Une scierie mobile, tout simplement, c'est une scierie, mais ambulante, en fait, qui se déplace chez les gens, chez les propriétaires, en fait, pour débiter ce qu'ils veulent, des planches, des poutres, ce qu'ils veulent faire avec leur propre bois.
Voilà. Donc, on t'appelle, on a du bois chez nous, on t'appelle, tu arrives avec...
Voilà, on a des troncs, des fûts, des grumes, selon les métiers, c'est pas le même nom. Et je viens débiter, en fait, à façon. Ça s'appelle un débit à façon, en fait. C'est un des plus vieux métiers qui existent. Ça s'appelle scieur de long, en fait.
Scieur de long.
Voilà.
Oui. OK. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ça veut dire quoi?
Scieur de long, c'est parce qu'autrefois, c'était des compagnons, en fait, charpentiers, qui se déplaçaient, en fait, de ferme en ferme, ou de château en château, ou de construction d'église en construction d'église, et qui débitaient, en fait, toutes les pièces de bois. Avec des scies, avec une scie de long à l'ancienne, en fait.
Et toi, Gilles, ton parcours, alors, c'est quoi?
Alors, moi, je suis un pur boiseux, comme on dit dans le métier, c'est-à-dire que je suis un menuisier, en fait, depuis l'âge de 14 ans. J'ai travaillé pendant une douzaine d'années, en fait, dans différentes entreprises. Après, j'ai été 20 ans comme professeur de menuiserie dans l'éducation nationale. Et puis j'ai fait le choix il y a 3 ans de quitter en fait l'éducation nationale pour m'installer avec ma scierie mobile.
Ça a été quoi le déclic?
Le déclic, en fait, c'était d'en faire en fait déjà pour moi, à titre personnel, avec des copains dans les Deux-Sèvres. Et donc on faisait venir une scierie mobile qui vient de Blain, voilà, qui venait de Blain, donc qui courait beaucoup de distance. Et un jour, ça s'est fait tout simplement à l'Assemblée Générale du CPIE, à la Flosselière, de la maison de la vie rurale. En discutant avec des copains, ils m'ont dit « Mais si toi, tu te lances pas, on voit pas qui va se lancer, quoi. » Et donc, du coup, c'est parti comme ça. Voilà.
Toi, Morgane, quel regard tu portes sur la scierie mobile? Vous êtes très liés. Ensemble, vous avez co-construit ce tiers-lieu, les Sens du Bois. Tu peux nous parler de tout ça?
Bonjour, d'abord. La scierie mobile pour le territoire sur le pays de Pouzauges a été aussi un acteur économique qui a un peu déclenché ou en tout cas fait levier sur la démarche de filière bois locale qu'on avait déjà sur le territoire depuis quelques années, mais qui a été un peu un élément révélateur d'un besoin de structurer un petit peu plus la filière bois locale sur notamment la valorisation du bois d'œuvre issu de l'entretien des haies qu'on pouvait avoir sur le territoire. Gilles avec d'autres regardait ce qui se passait dans l'entretien des haies et ce qu'on faisait des résidus issus de l'entretien des haies qui partaient pour majorité en bois énergie et il y avait une partie qui pouvait être valorisable en bois d'œuvre. Et donc ces acteurs-là se sont dit à un moment donné, bah non, c'est quand même dommage, il faudrait un peu mieux trier et pouvoir avoir une filière de valorisation en bois d'œuvre de ce bois issu de haies. Donc c'est un peu comme ça. Enfin, voilà, la scierie mobile aussi a été un effet révélateur, on va dire, de ce bois qui était dans les haies et qui n'était pas forcément valorisé à sa juste valeur. Mais le fait d'être mobile permet de voir ça, ce qui n'est pas le cas d'une scierie classique fixe voilà, sur le territoire. Donc, nous, ça a été un effet levier aussi pour le Pays de Bouzouges, pour travailler un petit peu cette dynamique du bois d'œuvre sur le territoire.
Donc on peut vraiment dire que la scierie mobile de Gilles est un maillon incontestable dans la filière bois locale, en tout cas. C'est ce qu'on entend dans ce que tu nous évoques.
Oui, ouais, complètement.
Ça s'inscrit dans ta mission complètement dans ta mission, à quel point
Oui, bah, du coup, dans la démarche d'écologie industrielle territoriale, on est dans des démarches de filière. Et là, spécifiquement sur la filière bois, et en effet, c'est aussi d'essayer de voir tout l'écosystème qui gravite autour de la filière, tous les acteurs qui gravitent autour de la filière, et essayer de les faire se rencontrer et de les faire travailler ensemble pour se dire, ok, vous vous dites entre vous, dans votre coin, il faut faire quelque chose autour de ce bois d'œuvre, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et donc, on va dire que mon rôle sur la démarche de IT, ça a été d'être facilitatrice, tout simplement, et de mettre ces personnes-là autour de la table, qu'elles discutent ensemble, qu'on mène un groupe de travail. Et ça a été un travail qui a été mené depuis 2021 là-dessus, où voilà, on a décidé de bosser ensemble et de se dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, c'est quoi nos objectifs communs pour atteindre cet objectif de valorisation de bois d'œuvre sur le territoire et aussi pour donner à voir ce bois d'œuvre auprès de nos menuisiers et qu'on retrouve aussi des savoir-faire autour du bois qu'on a un peu perdu. Voilà. D'où après... j'en parlerai peut-être après, mais enfin, la création après de la SIC, l'essence du bois, mais qui est aussi.
Avant d'en parler justement, Gilles, peut-être nous donner un petit peu eh bien, tes impressions concernant cette collaboration aussi, les avantages, les inconvénients, plus d'avantages, j'imagine.
Plus d'avantages, oui, parce que en fait, ça permet de connaître en fait tous les acteurs au niveau local. Tous les acteurs, c'est-à-dire que ce soit les gestionnaires de forêt, que ce soit les élagueurs abatteurs. Que ce soit les débardeurs, en fait, ça a permis en fait que tout le monde se connaisse et tout le monde travaille ensemble en fait sans aller chercher obligatoirement cette compétence à l'extérieur en fait, parce que par habitude des fois on va là où on connaît et ça peut être à l'extérieur en fait par rapport au territoire où on travaille. Donc ça a permis ça et puis ça a permis surtout qu'on avance tous ensemble en fait dans la démarche aussi derrière par rapport à l'essence du bois, de se regrouper autour d'une réflexion, comment on fait, qu'est-ce qu'on essaye de faire, parce que mes clients, en fait, quelque part, cherchaient aussi des gens, des menuisiers, en fait, hein, sur le territoire, qui soient capables de réaliser leurs projets avec le bois que j'avais déjà scié. Donc, c'est cette clé-là qui manquait, en fait, d'où la création après de l'essence du bois.
Justement, cette création, voilà, c'est un tiers lieu. En fait, on peut expliquer un petit peu ce qui s'y passe. Voilà, faire une belle présentation.
Oui, donc c'est un tiers lieu. Je vais faire quand même un petit peu la genèse hein, rapidement. Mais l'élément déclencheur pour la création de ce lieu, ça a été l'appel à manifestation d'intérêt, donc AMI, Manufacture de proximité, qui a été lancé l'année dernière. Donc l'objectif, je vous l'ai fait en gros, mais du gouvernement, c'est suite Covid. C'était de pouvoir relocaliser des savoir-faire sur les territoires. Et donc, il y a eu donc, l'appel à manifestation de labelliser 100 manufactures de proximité sur le territoire. Donc l'année dernière, l'été dernier, et quand on a vu cet appel à manifestation, manufacture de proximité, le sous-titre, c'est « tiers-lieu de production et de formation ». Et clairement, nous, ça a fait tilt. Et on arrivait en plus à un moment charnière dans notre groupe de travail Tiers-lieu Bois où on avait besoin de cet espace physique, de créer cet espace physique. Parce qu'on était pour l'instant qu'un espace de réflexion. On a monté une semaine du bois local sur le pays de Pouzauges. Mais enfin, il fallait plus, quoi. Et donc cette AMI... avec forcément des financements à la clé, on s'est dit qu'il faut y aller parce que ça va être un effet levier pour le développement du projet et la mise en œuvre d'un outil physique. On a été lauréat, donc on est labellisé manufacture de proximité. D'ailleurs, demain, on va rencontrer les 99 autres manufactures de proximité à Bordeaux. Il y a une rencontre, une première rencontre. Donc voilà, une fois cette labellisation-là, ça a fait ça nous a permis d'avoir des financements. La communauté de communes aussi a vraiment joué le jeu, hein, parce que dans cette dynamique, quand même, de répondre à cet appel à projet, il fallait aussi que la Comcom soit partie prenante. C'était, on va dire, une des clés aussi, hein, de la réussite de la réponse à cet appel à projet. C'était qu'il fallait aussi qu'on ait déjà un accès au foncier ou à de l'immobilier. Et donc, la communauté de communes avait fait l'achat d'une ancienne friche agroalimentaire pour que le tiers-lieu bois puisse rentrer à l'intérieur de ce bâtiment. Donc ça aussi, ça a été un élément important dans la démarche.
Comment est-ce que vous arrivez à travailler, à collaborer ensemble entre la Comcom, entre la CIRI, le tiers-lieu? Comment est-ce que ça s'organise?
Très mal.
Non, en fait, c'est assez simple. En fait, si on inscrit bien les choses en fait dans les statuts, c'est-à-dire ça fait partie des réunions. Ça a pris, on s'est fait accompagner par l'URSSCOP, puisqu'on avait le droit à un accompagnement. On a fait le choix de se faire accompagner par l'URSSCOP pour créer la SIC dans les statuts. Et donc, on a fait tout un choix, c'est-à-dire on est une SIC sous statut après SAS. Donc tout aurait pu être, dirigé comme une simple entreprise, c'est-à-dire moi en tant que président, je pouvais me retrouver à prendre toutes les décisions en fait. C'était surtout pas notre but, donc on a créé un conseil coopératif qui représente en fait les différentes parties des actionnaires et qui est réellement l'organe de décision en fait de l'essence du bois, qui nous permet de nous réunir, enfin on se réunit une fois par mois. Donc le conseil coopératif et je dirais la partie opérationnelle, on travaille tous les lundis en fait tous ensemble. On est la partie opérationnelle tous les lundis, on est ensemble à l'essence du bois.
Oui, donc on entend bien que l'idée de poser un cadre, d'être clair avec ce que chacun souhaite, c'est ce qui vous a permis cette forme de fluidité.
Oui, parce que quelque part en fait ça a permis en fait de rassurer, je dirais, la partie élue et tous les partenaires en fait qui à la base aussi ont mis de l'argent en fait dans la création de la SIC.
Bien sûr, complètement. Si on parle du titre de notre échange, là, de notre émission, l'idée de revenir aux sources dans une filière locale, ça vous évoque quoi à chacun d'entre vous, ça revenir aux sources?
Ben, c'est utiliser la proximité, c'est, enfin, pour moi, dans mon métier, c'est-à-dire que ce soit menuisier, enfin dans le travail du bois, c'est revenir à utiliser des produits qui viennent de la proximité et non qui viennent de l'autre bout de la planète. Ou...
C'est du bon sens ?
Bah oui, c'est ce qu'on a perdu pendant deux générations, quelque part. Enfin, voilà, le travail du bois local, on ne sait plus faire. On sait aujourd'hui un têtard, donc une trogne, hein, parce qu'il n'y a que dans l'Ouest qu'on appelle ça un têtard. Hein. On pense à utiliser ça en bois de chauffage.
Mais c'est quoi un têtard ?
Un têtard, c'est un arbre en fait qui servait à marquer. À la fois, ça servait à la fois à marquer les limites de parcelles et en même temps, ça correspondait à un beau de 9 ans, de 12 ans ou de 15 ans avec les agriculteurs qui avaient le droit de faire le bois de chauffage, donc les branches, mais qui n'avaient pas le droit de toucher au fût. Et c'est pour ça que, les fûts étaient, rester la propriété du propriétaire. De temps en temps, il en donnait aux agriculteurs. C'est pour ça que vous trouvez sur vos vieux meubles, en fait, des planches de différentes essences, puisque, en fait, les agriculteurs, quand ils avaient besoin d'un meuble, aucun menuisier ou charron de la commune n'avait de stock de bois. Donc, ils venaient avec ces planches, et le menuisier ou le charron fabriquait avec ce qu'il avait. Donc, c'est pour ça que sur les vieilles tables, sur les vieux meubles, vous avez plusieurs essences. Vous pouvez trouver un dessus de table en peuplier. Parce que les gens font des bons aujourd'hui. Les menuisiers, quand on leur dit la table des grands-parents de ma femme, qui a plus d'un siècle, et qui est dans notre salle à manger, est en peuplier. Le dessus est en peuplier. Autrefois, ça se faisait, sans souci.
C'est fou, ça paraît novateur et en réalité innovant. Et en réalité, ça existe depuis toujours, c'est ça ?
C'est ça, on n'a rien inventé.
On sent le passionné.
On sent voilà. Le passionné.
Du coup, Morgane, pour vous, l'audace d'entreprendre ensemble au service d'une société positive, ça vous évoque quoi?
Que c'était audacieux à la base quand même de mettre la com-com et tout ça ensemble, non?
C'est pas pour lancer des fleurs à la communauté de communes. Au territoire. Oui, c'est audacieux. Après, moi, si je parle de mon poste sur la démarche d'écologie industrielle, la base de la démarche, c'est de faire ensemble. C'est le collectif. Donc, voilà. Et après, sur le territoire, on a quand même cette chance. Enfin, je veux dire, c'est pas né comme ça un jour il y a 2 ans, tiens on va faire ensemble, enfin c'est quand même une démarche de longue haleine, une histoire de territoire aussi, enfin ça c'est quand même important, enfin il y a une histoire quoi. Il y a une histoire, il y a une charte forestière aussi sur le territoire depuis presque 20 ans, où du coup cette charte elle réunit les divers acteurs qui agissent pour la ressource et sa durabilité. Et donc oui, c'est audacieux de faire ensemble, parce que c'est pas évident, ça peut prendre plus de temps, il peut y avoir des moments un peu difficiles ou de remise en question, mais au final on avance toujours quand même plus vite au bout du compte, et on va plus loin en fait, parce que y a une complémentarité dans le collectif qui fait que on arrive tout en fait, la complémentarité permet finalement toujours d'aller dans le droit chemin et d'atteindre nos objectifs quoi, et on se fixe toujours des objectifs communs aussi, et on sait qu'on va tous vers cette démarche, en tout cas nous de filière sur le territoire.
Je pense que vous allez inspirer d'autres collectivités certainement.
On a quelques visites. Ouais. On avait Air de Régèvre, ils étaient 27 la dernière fois. oui, c'est sûr. Après, j'ai envie de dire, c'est des démarches qui peuvent pas être duplicables. C'est des démarches où justement, il faut que ça s'ancre à un besoin de territoire. À des besoins d'acteurs. C'est vraiment propre à chaque territoire, et chaque territoire construit son histoire aussi sur ses ressources aussi. Nous on est parti de cette ressource là, mais ça aurait pu être autre chose.
C'est malgré tout quand même inspirant que chaque territoire puisse s'inspirer de cette idée-là pour l'adapter à une forme de territorialité. Ce qu'on entend vraiment dans votre discours à tous les deux, c'est cette forme de respect de l'histoire du territoire, le local, une forme de simplicité, revenir aux sources, prendre soin de ce qui est déjà là aussi peut-être, et peut-être avant tout le bon sens aussi. Il me semble que c'est... Ce sont des notions qui ressortent et qui sont quand même très fortes dans ce que vous nous partagez.
Oui, ben.
Et ça coche toutes les cases RSE, en passant.
Un de nos élus qui fait partie, enfin, du coup, qui est délégué par la présidente Bérangère Soulard auprès de la SIC, hein, le conseil coopératif, Dominique Blanchard, dirait que c'est le bon sens paysan, quoi. Il redit souvent, mais en même temps, c'est vrai, le retour à la matière pour les menuisiers, c'est quelque chose d'important. Toucher.
Être en contact.
De la matière. Et même sur les territoires, on a aussi un parcours d'orientation pour les jeunes. L'enjeu de retour à la matière aussi, toucher de la matière pour envisager un métier, ça paraît presque évident.
Gilles, le mot de la fin ?
Initié, c'est-à-dire, je pense que tout le monde dans la salle, enfin peu importe les métiers manuels, on a du mal aujourd'hui. Dans plein de métiers, on a du mal à recruter, mais parce qu'on n'apprend plus suffisamment tôt à toucher à de la matière, enfin peu importe la matière, que ce soit de l'acier, que ce soit du bois, soit si on touche de bonne heure, après on a envie de faire quelque chose, peu importe le niveau d'étude après, mais
de rester en contact avec
voilà
cette
si
matière.
On est avec la matière de base, après derrière on a envie, et c'est d'où l'intérêt nous au travers de la semaine du bois de faire des ateliers de découverte avec des jeunes enfants, je le dis, parce que moi je trouve que c'est une des choses les plus importantes, c'est-à-dire c'est eux qui sont l'avenir, et c'est eux, quand ils commencent à bricoler un sapin de Noël sur une scie vibrante, qui se disent peut-être qu'en fait, ça pourrait être intéressant comme métier plus tard, et puis peut-être qu'ils feront une école d'ingénieur même dans ce domaine-là, mais c'est pas grave. C'est la matière à la base qui les aura raccrochés à quelque chose. Mmh. Moi, c'est ce que je dis toujours, je sais travailler que le bois, je sais pas faire autre chose. Donc en fait, tous les métiers que j'ai pu faire dans ma vie, c'est autour du bois. Mmh. Voilà.
Écoute, on s'en ravit puisque c'est très inspirant. Donc on le constate, hein, ça vient cocher pas mal de cases, donc de ces notions de RSE, mais ça vient aussi cocher cette idée d'avoir cette audace d'entreprendre ensemble au service d'une société positive. Écoutez, merci à tous les deux. Le temps de changer de plateau et nous nous retrouvons très vite pour la seconde partie de notre émission avec Nicolas Forget, Bertrand Gilbert et Alain Méchineau qui vont nous rejoindre sans plus tarder. Mais sans attendre, nous laissons la parole à notre correspondant sur place. Yann, c'est à toi.
Positive Vibes, quand une entreprise devient remarquable et est soutenue par un parrain remarquable.
Et nous sommes de retour en plateau sur Digradio dans cette émission spéciale consacrée maintenant au parrainage. Et nous accueillons tout d'abord Nicolas Forget et Bertrand Gilbert, tous les deux associés de l'entreprise Kraken Lighting. On peut les applaudir aussi pour les accueillir. Fabricant d'éclairage professionnel en bois massif, bonjour à vous deux. Et également Alain Méchineau, président du groupe Elva, fabricant de menuiserie. Bonsoir à vous.
Bonjour.
Alors on va commencer avec vous, Nicolas et Bertrand. Est-ce que vous pouvez présenter rapidement Kraken Lighting, s'il vous plaît?
Allez, bonsoir à tout le monde. Donc Kraken Lighting, c'est une société qu'on a créée il y a un peu plus de 3 ans pendant le confinement. On est tous les deux anciens collègues avec Bertrand. On vient de l'éclairage professionnel, dans la distribution d'éclairage professionnel plutôt tertiaire. Et on avait eu une idée un peu avant le confinement de fabriquer des luminaires en bois massif. On ne savait pas vraiment comment on allait le faire. Mais le confinement, comme à tous, nous a donné du temps de réflexion. Et on a commencé à pousser la réflexion et 9 mois après, on a réussi à accoucher d'une société qui s'appelait Kraken Lighting avec plein d'idées qu'on avait déjà en commun et de valeurs qui étaient sur le développement de produits le plus éco-conçus. Et l'éco-conception, c'est très large, mais dedans, on a écrit beaucoup, on a partagé beaucoup parce qu'on ne pouvait pas se voir dans le moment. Et voilà, on a écrit plein de valeurs et aujourd'hui, on est assez fiers de ce qu'on a pu faire. Et Bertrand va vous parler de nos valeurs, justement.
Alors justement, Bertrand, allez-y.
On voulait vraiment faire le projet le plus local possible. C'était quelque chose qui était important. Je pense que le Covid a mis en avant le fait que beaucoup de gens se sont recentrés sur leur tissu économique proche, que ce soit sur l'alimentation ou sur tout un tas de choses. Et en fait, dans notre métier de l'éclairage professionnel, Nicolas et moi, on n'était plus forcément en phase entre la manière dont on travaillait et la manière dont on consommait. Et on a vraiment voulu faire une société qui soit le plus raisonnée, raisonnable possible. C'est ça, tous les sens du terme.
C'est facile de faire ça?
Ouais, c'est beaucoup plus compliqué que de faire de manière classique, mais c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus stimulant aussi. Et en fait, on retrouve tout simplement un réseau et un tissu local que la plupart du temps, on perd parce qu'on va à la facilité et de plus en plus loin. Le plus souvent, c'est un petit peu ça le problème.
D'autant plus qu'il y avait quelque chose, ça n'existait pas, le produit que vous proposez, les faire en bois.
Alors,
ça n'existait pas.
Des luminaires professionnels, on en a tous, dans tous les bureaux, dans tous les bâtiments dans lesquels on a. Des luminaires en bois, il y en a, on va dire, de manière plutôt décorative. Après, nous, on voulait faire des produits qui soient professionnels, dans le sens où ils ont des vraies performances, des vrais niveaux de confort pour être mis dans des locaux qui accueillent du public, des écoles ou des bureaux. Donc ce mélange vraiment des deux, c'était ça qui nous intéressait, d'allier le joli, le local, la matière, aux nouvelles technologies, à la performance et tout ça.
Qu'est-ce que ça donne, là, quelques années après le lancement ?
En 3 ans. On est à peu près au niveau de la feuille de route qu'on s'était donnée. Donc on a sorti une gamme de produits qui est assez large. Aujourd'hui, on a livré à peu près 150 chantiers. On a fabriqué 2000 produits. Donc on est à peu près dans ce qu'on s'était donné à ce niveau-là. Et on a une gamme qui répond vraiment aux besoins du quotidien de notre domaine.
Et qu'est-ce que ça fait de se dire on est arrivé à sortir notre projet, il est éco-conçu, il est là, il existe. Alors ok, c'était peut-être difficile. Mais comment on se sent quand on voit qu'on a réussi ça?
Alors, il n'y a jamais vraiment de finalité sur la réussite. Cet après-midi, on avait la chance de discuter avec Emmanuel Danette de Solutions & Co. Via le réseau Initiative, parce que justement, ça fait partie des accompagnements. Jusqu'à pas longtemps, j'appelais Kraken Lighting encore un projet. Voilà, j'étais encore...
Aujourd'hui, la première fois, il m'a dit que c'était peut-être une entreprise.
Voilà.
Aujourd'hui, pour la première fois.
Là, je commence à passer de projet à entreprise. Donc voilà, donc il n'y a pas vraiment de finalité. Donc,
vous êtes entrepreneur, plus porteur de projet.
Voilà. En fait, on cherche de nouveaux projets, justement, pour être encore porteur de projet de nos propres projets. Voilà, il n'y a pas vraiment de finalité. Malgré tout, on est assez fiers de ce qu'on a réussi à construire. Il y a plein de marqueurs qui nous disent qu'on est quand même sur la bonne voie, mais c'est à la fois, on a la chance d'être deux associés, ça c'est encore plus facile à avancer, et le réseau Initiative, et notamment Alain, fait partie aussi et font partie des points d'ancrage qui nous permettent de se dire, bon, on valide un peu ce qu'on a fait, on veut aller plus loin, on en discute avec Alain, avec les équipes d'IVB, et grâce à ça aussi, on continue d'avancer en se disant, ok, pour l'instant, on est sur la bonne voie, on continue. Parce qu'on a aussi pas mal de questions, même si on
propose des choses. Justement, Alain, voilà, on va parler du parrainage, forcément. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous ? Alors, président d'un groupe important, le groupe Elva, qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme conseil aussi, vous ? Alors, c'est déjà fait, forcément.
C'est déjà fait, parce qu'on n'a pas entendu ça aujourd'hui pour assister à leur espoir, parce que c'est comme un espoir ce qu'ils ont fait. Ils sont partis de rien, d'une feuille blanche, et lancer des produits qu'ils ne connaissaient pas, parce que vous avez découvert vos produits au fur et à mesure que vous avez imaginé. Hein. Donc c'est quand même compliqué aujourd'hui de monter une entreprise sans produits. Vous aviez la clientèle quand même, vous aviez la clientèle à peu près, mais c'est... Bravo pour la réussite de cette entreprise, quand même. C'est bravo.
Et qu'est-ce que ça vous apportait, vous, alors, ce parrainage ?
Comme disait Nicolas, on a commencé à imaginer la société pendant le confinement. On a passé 3 mois à s'appeler plusieurs fois par jour pour dessiner vraiment les contours de ce que serait Kraken Lighting. Le plus dur et le plus important souvent, c'est de confronter ses idées, parce qu'on peut avoir entre nous deux et en vase clos l'idée qui nous paraît la meilleure et la plus révolutionnaire et tout ça, mais quand on confronte à des gens qui sont soit dans notre domaine, soit dans un domaine qui est complètement à part de ce qu'on fait, c'est de dire voilà, qu'est-ce que vous en pensez, et d'avoir vraiment du conseil, d'avoir vraiment des retours, des critiques, parce que les critiques c'est positif, d'avoir vraiment cet accompagnement et pas juste de rester dans notre propre circuit fermé, quoi.
Alors c'est vrai que votre duo parrain-filleul est étonnant sur plusieurs points, notamment déjà cette potentialité de l'échange intergénérationnel, mais pas que. Hein. Alain est plutôt un industriel. Vous, pas vraiment, peut-être pas encore, mais peut-être que ça ne serait tardé. Du coup, comment est-ce qu'on se positionne par rapport les uns les autres par rapport à ça, en sachant que le gros avantage que vous avez, c'est que vous travaillez la même matière.
Oui, on travaille la même matière, c'est vrai. C'est vrai que c'est une base quand même, puisque... Bon, le bois, on l'a vu tout à l'heure, c'est quand même pas un matériau, disons, facile à travailler. Hein. Donc c'est vrai qu'on a des échanges sur la matière, ça c'est sûr. Mais pas que sur la matière, on a aussi beaucoup d'échanges sur l'avenir de la société, comment on voit les choses, sur également les futurs projets à mettre en œuvre, et surtout sur, je dirais, l'organisation des futurs projets. Disons, et quelques dates à prendre dans le futur, ne pas tout, disons.
Et est-ce qu'on envisage ça de la même façon, qu'on soit un industriel ou une petite structure qui démarre ?
Tous les projets se ressemblent. Le déroulement d'un projet est pareil, que ce soit un petit ou soit un
grand. On a les mêmes problèmes, finalement.
Quand on a été accompagné au tout début par IVB, on nous a demandé quel type de parrain ou quel profil de parrain on aimerait avoir. Et en fait, on avait demandé quelqu'un qui pourrait nous accompagner dans l'industrialisation de notre process. Donc, en l'occurrence, c'est bien tombé parce qu'Alain, il connaît à la fois l'industrie et à la fois notre domaine. Mais on voulait vraiment quelqu'un qui puisse nous conseiller sur on va dire, les investissements ou les choses à mettre en place pour arriver, on va dire, d'un projet, comme Nicolas disait, à une entreprise pérenne, récurrente, qui industrialise et qui fabrique ses produits, quoi.
Alors, comment ça se passe, on va dire, au quotidien? Vous donnez des rendez-vous, vous vous appelez, vous envoyez des messages. Comment ça se passe, la relation entre un parrain et ses filleuls?
Au tout début, on était dans la phase de création de l'entreprise, donc c'est quand même un peu long, compliqué. Je pense qu'on n'a pas sollicité Alain au début parce que on avait tout un tas de sujets. Quand on crée une entreprise, on a déjà beaucoup beaucoup de choses à mettre en œuvre. On savait qu'on appellerait Alain ou son expertise dans un second temps, quand on devrait vraiment structurer vraiment l'entreprise à proprement parler, pas vraiment la créer, mais plutôt la structurer. Donc depuis, on va dire, un an, les échanges sont plus réguliers parce qu'on arrive dans une phase, dans une deuxième phase vraiment de croissance de l'entreprise où on doit vraiment développer.
Justement, la croissance, comment vous vous projetez, vous? Est-ce que voilà, y a des projets peut-être aussi à annoncer pour vous?
La croissance, elle est continue. Donc, comme on le disait, les courbes sont comme on l'avait prévu. Aujourd'hui, on a besoin de structurer encore un peu plus pour passer de projet à industrie, enfin avant d'arriver à industrie. Donc on est en phase de développement à structurer, à staffer, à embaucher du point de vue commercial et du point de vue production, et investir dans des machines aussi d'usinage numérique et d'assemblage. Aujourd'hui, sur toute notre partie fabrication, dans le développement de nos produits, comme je reviens sur l'éco-conception de nos produits, on nous demande souvent combien on est dans l'équipe. Alors, rapidement on se retourne, on est tout seul, sauf qu'en fait on a quand même structuré pour fabriquer des produits, comme je le disais, qui sont réparables, et d'avoir une conception assez la plus simple possible. Et du coup on a un vrai partenariat avec ESATCO, qui est surtout l'ESAT de la Guyonnière. Et du coup, 90% aujourd'hui de nos produits sont assemblés par l'ESAT, par les travailleurs handicapés de l'ESAT de la Guyonnière. Et du coup, pour nous, c'est une vraie force. Ça nous a obligés aussi à structurer nos productions parce qu'on les externalise en quelque part. Donc, on structure beaucoup la fabrication comme ça. Et l'ESAT, en plus du côté ESS, et on va dire RSE de notre ADN, c'est vraiment un partenariat important pour nous. Alors déjà, c'est un de nos fournisseurs. Quand on arrive avec une commande, même de 10 pièces, ils ont un sourire comme pas permis. Donc ça, c'est un vrai plaisir déjà. Et ils ont aussi cette capacité de prendre des commandes pour 10 pièces, jusqu'à 100 pièces, jusqu'à 1000 pièces. Donc on sait déjà que sur notre développement, sur un peu l'industrialisation, on peut compter sur eux pour une grosse partie de la production, et notamment en Vendée, où la plupart des entreprises ont des banderoles devant chez eux, recrute. Bon, on sait d'entrée de jeu que ça va être compliqué de recruter des gens pour venir mettre des vis dans du bois ou venir mettre des câbles. Donc dans notre développement de produits, c'était vraiment un axe important de faire ce partenariat avec ESATCO.
C'est un enjeu important de recruter, mais c'est aussi un enjeu important sans doute aussi au démarrage de l'entreprise, de transmettre qui vous êtes, les valeurs que vous avez, que vous portez, qui sont fortes. Comment est-ce qu'on se prépare à ça, à avoir peut-être une équipe qui va grossir, que ce soit les AT ou autres? Comment est-ce que vous envisagez cela? Est-ce que peut-être Alain aussi vous aide avec ce sujet-là?
Généralement, quand on présente notre projet, quand on présente l'entreprise, c'est assez communicatif parce qu'on l'a fait vraiment par conviction. Si on voulait être millionnaire, on n'aurait sans doute pas fait ça. Et on l'a fait parce que ça nous tenait à cœur et que c'était vraiment en raccord avec nos valeurs. Donc quand on met du cœur et de la passion, c'est très facile de faire adhérer les autres. Après, dans notre domaine de l'éclairage professionnel, on est confronté quand même à un secteur concurrentiel, comme d'autres, et un temps de projet relativement long. C'est aujourd'hui ça qui est quand même plus compliqué à appréhender, c'est que avant de mettre de l'éclairage, il faut faire les fondations, il faut monter des murs, il faut faire de la peinture, il faut faire passer des câbles. Donc nous, on intervient vraiment à la fin d'un chantier. Donc on a un temps très long entre le moment où on va présenter, le coup de crayon du projet, et le moment vraiment où la pose et la fabrication se fait. Des fois, on a des échéances à 2, 3, 4 ans sur certains chantiers qui sont en cours, quoi.
Alain, qu'est-ce que ça t'évoque, peut-être le mot de la fin par rapport à ça, quand tu les vois tous les deux parler de leur projet, que tu les as vus grandir, qu'est-ce que tu te dis, qu'est-ce que...
Je vois dans 10 ans une entreprise très prospère et qui rayonnera sur toute la France et peut-être à l'export parce qu'ils ont le projet de partir à l'export. Donc bon, je pense que les fondations sont bonnes. Et...
Ça t'inspire?
Ça m'inspire, oui, c'est vrai. Non, c'est vrai.
Une entreprise qui va briller.
De toute façon, alors, on peut pas se louper parce que je crois que le président d'IVB avait donné un chiffre comme quoi 94% des entreprises qui étaient accompagnées par IVB existaient toujours au bout de 3 ans. Donc on est dans les, pour l'instant, on est dans les 94%.
C'est effectivement, comme le dit Guillaume, c'était un beau mot de la fin. Bah, écoutez, merci beaucoup à tous les trois. Merci pour cette inspiration, pour la mise en œuvre de cette jolie entente porteuse. Je trouve que c'est ça vraiment qu'on ressent en vous écoutant tous les trois. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour notre troisième et dernière partie d'émission, puisque nous serons en compagnie de Stéphanie Retailleau et Alice Rouet pour évoquer le lien entre entreprise et mission. Mais dans cette attente, eh bien Yann,
notre correspondant
sur place, c'est
en direct,
à toi.
En direct.
Positive Vibes, quand entreprendre devient une mission.
Nous sommes de retour à l'antenne sur Dig Radio dans Positive Vibes pour cette troisième et dernière partie d'émission. Alors, quand entreprendre devient une mission ? Tout un programme que nous vous proposons d'évoquer avec Stéphanie Retailleau, coiffeuse perruquière, et Alice Rouet, entrepreneuse dans l'âme qui évolue dans le domaine de la communication. Bonsoir et bienvenue à toutes les deux. Alors...
Bonsoir.
Bonsoir.
Moi, il y a une question qui me brûle les lèvres, Stéphanie. Ça fait quoi d'être égérie ?
Ah, ben je m'attendais pas à ça. c'est impressionnant, en fait, parce qu'on est soutenu en fait sur cette course par toutes ces femmes qu'on soutient aussi parce que je suis passée par là et le fait d'ouvrir cette course et d'avoir le micro et de leur dire il y a un an jour pour jour on m'annonçait un cancer du sein et
j'étais à votre place. Ouais, ça,
c'est énorme.
Ça a du sens.
Il y a 3 ans, pardon.
Ça vient cocher certaines cases de l'idée de se dire, ok, j'entreprends, mais c'est pas pour rien. On porte quelque chose, on porte cette mission. Peut-être chacune d'entre vous, qu'est-ce que ça signifie, la notion de mission ?
Je te passe le micro, du coup.
C'est quoi une mission pour vous ?
Ben là, ça a du sens. Les Pas de Chichi, on est là pour aider les femmes. Donc il y a une vraie mission, c'est de les aider, tout simplement.
On peut pas s'arrêter, quoi.
Non, et en fait, des fois, on est un peu découragé. Il y a des moments où on se dit, on n'y arrive pas, ça mouline. Et puis, dans ces moments-là, c'est là où on reçoit un témoignage. On a un témoignage d'une femme qui nous dit, merci, c'est merveilleux, je me suis retrouvée, ça m'aide à combattre.
C'est reparti pour
ça vous booste.
C'est parti, on sait pourquoi on fait ça.
Bon, alors, avant d'aller plus loin, c'est quoi les Pas de Chichi ?
Alors, le Pas de Chichi, en fait, c'est un turban avec les cheveux de la patiente. Donc, le but étant qu'elle nous envoie ses cheveux, en fait, avant qu'ils tombent, avant sa perte de cheveux, parce qu'elle a généralement une chimiothérapie alopéciante. Et donc, elle nous les envoie par la poste. Moi, je confectionne un bandeau qu'elle peut accessoiriser avec un turban de son choix, ou son chapeau, ou son bonnet. Le but, c'est qu'elle reste elle-même, qu'elle garde son identité, donc qu'elle garde ses cheveux. On sait que les cancers sont assez invasifs et on perd déjà pas mal de soi, soit un bout de soi même, un sein ou quelque chose. Et là, en fait, ce cheveu-là, on va le perdre. Elles vont me le donner, mais elles vont le retrouver sur leur bandeau. Donc, un Pas de Chichi, c'est garder son identité, tout simplement.
Comment vous avez eu l'idée que personne aussi avant ait eu l'idée il y a quelque chose...
Alors, personne n'a eu l'idée avant. Clairement, je ne sais pas pourquoi.
Ouais.
Moi, j'ai cherché des trucs qui me correspondaient parce que j'ai essayé des perruques et des bonnets. Et j'ai l'impression d'être déguisée. Alors, malgré que j'adore être déguisée, là, je n'avais pas du tout envie d'être déguisée. Et je n'avais surtout pas envie qu'on me voie ou qu'on me considère comme malade. Et de comment m'est venue l'idée, en fait, tout simplement, quand mes cheveux sont tombés, je me suis dit, il faut que je les récupère, on ne sait jamais, je peux en faire quelque chose. J'ai un diplôme de perruquier depuis des années. Et là, j'en ai fait un turban. Donc voilà comment m'est venue l'idée. Mais à la base, je l'ai fait pour moi, en fait. Et du coup, il faut être accompagné d'Isroué pour que ça devienne voilà, national.
Oui, parce qu'au début, Stéphanie, quand elle a fait son pas de chichi, enfin son bandeau de cheveux, elle n'y croyait pas du tout. Et moi, je suis arrivée, je lui ai dit, c'est génial. Moi, si demain, je suis malade, j'ai envie d'avoir ça. Elle me fait, mais t'inquiète, je t'en ferai un. Je fais, ben oui, non, mais c'est très bien, c'est gentil, mais toutes les femmes, en fait, devraient pouvoir avoir accès à ça, quoi. Et elle me dit, oui, je sais pas trop, et tout. Et je lui dis, ben écoute, moi, si tu veux, je t'aide, je mets des billes dedans et on y va. Elle me dit, bon, attends, je suis en plein traitement, laisse-moi le temps. Et puis, bah, 6 mois après, tu m'as appelé.
Et voilà, et puis, comment est née votre belle collaboration.
C'est ça.
Les pâtes chichi cochent plusieurs cases, la solidarité, le rebond, l'artisanat, la complémentarité, ça fait pas mal de choses finalement. Il y a tout ça dans la mission. Comment est-ce qu'on organise tout ça? Ça se fait tout seul? C'est parce que la mission est tellement plus grande que nous que ça porte tout ça? Comment on arrive à cocher toutes ces cases?
Je pense qu'on ne s'est pas posé de questions. Non mais en fait c'est bien parce que tu résumes hyper bien le truc. Nous on s'est pas dit alors on va prendre chaque point et on va tout cocher. En fait on a coché avant d'avoir les points, je pense. Enfin, on s'est pas trop, on s'est jamais posé de questions parce que ça a toujours été une évidence. On a jamais, enfin comme dialyste, on a eu des fois des moments et on a encore des moments où on se dit c'est la galère, mais tout s'est toujours ouvert devant nous, quoi. Enfin, on est porté d'une espèce de, avec, enfin, une espèce de truc qui fait qu'on y va sans poser.
C'est un indicateur, ça. Quand les portes s'ouvrent assez facilement, parce qu'être entrepreneur, c'est pas tout le temps si simple. Il y a plein de portes qui se ferment aussi, mais là, c'est un indicateur fort qui, du coup, donne de l'eau au moulin à l'idée de porter cette mission. C'est pas très explicable en fait.
Ouais, en fait, on vit des trucs incroyables. Depuis qu'on a monté les pâtes chichi, on vit des expériences.
Ça fait combien de temps là?
Un an et demi. Ouais, donc. Depuis très juin 2022, donc exactement.
Et c'est quoi les trucs incroyables que vous vivez?
Bah, déjà, on monte un dossier sécu et c'est très très dur à monter. Et il y a quelqu'un qui nous a dit, qui est quand même consultante, qui nous a dit, mais moi je vais vous aider gratuitement parce que j'adore ce que vous faites.
J'y crois. En fait, les gens croient en nous et ils nous suivent et ils nous aident. Et c'est génial. Du coup, on est porté, on a l'impression d'avoir une armée derrière nous qui nous aide à avancer et qui nous aide à ouvrir les portes.
C'est une force pour vous d'être associés toutes les deux?
Ah oui.
Ouais.
Oui. On est hyper complémentaires. Tout ce qu'elle fait, moi, je sais pas le faire, et moi, je fais des trucs hyper chiants qu'elle sait pas faire non plus. Donc,
je sais pas faire ça non plus.
Et on est, et même dans les caractères, on est toujours hyper bien calés. C'est-à-dire que quand il y en a une qui est en bas, l'autre est en haut.
Le dosage est bon.
Ouais. En fait, c'est ça. C'est, on est vraiment complémentaires.
Ça se voit. Voilà. Vous rayonnez.
Là, c'est vrai que dans votre cas, l'association s'est faite un petit peu naturellement. Mais comment est-ce que, selon vous, on choisit un associé? C'est pas si simple que ça de se dire, tiens, je vais m'embarquer avec quelqu'un pour aller pour s'engager.
Je pense qu'on se connaissait déjà avant. On se ressemble, même si on se complète.
Ça gâche pas une amitié, par exemple, d'être associé?
Non, parce qu'on sait se dire les choses. Quand des fois, moi, je suis chiante et elle me le dit. Elle dit, ok, j'entends. Donc, je fais attention.
Donc, voilà, et puis, on sait faire autre chose que des pâtes chichi. Donc, quand on se rejoint ailleurs que dans le bureau, on peut ne pas parler de travail. Ouais. Ça nous arrive pas souvent, mais on peut le faire.
Ouais, mais on y arrive quand même.
Ouais, on y arrive.
La clé, c'est la communication, la transparence.
Oui, un sujet qui me semble aussi intéressant d'aborder dans votre projet, c'est peut-être la place de la femme aussi, vraiment globalement à l'intérieur de ce projet-là. Au-delà peut-être que juste lui donner une place, enfin là, elle est vraiment au centre. C'est quoi, selon vous, déjà, la place de la femme de façon globale? Et après, comment elle s'incarne peut-être au cœur des pâtes chichi?
Déjà, c'est Stéphanie, donc une femme, qui a eu l'idée. C'est pour principalement les femmes. Et en fait, les hommes ont peut-être du mal à comprendre ce que ça fait de perdre ses cheveux.
Le lien que la femme peut avoir avec cet attribut qui lui est assez spécifique, c'est ça. Ouais, c'est pas rien quand même. C'est vrai que c'est pas facile à expliquer.
Bah oui, et puis il y a plein d'hommes qui perdent leurs cheveux. Alors il y en a que ça traumatise, mais sinon ils se disent oui, bah c'est du cheveu. Mais c'est pas que du cheveu, quoi. Il y a autre chose derrière.
C'est quoi ? C'est une identité ? C'est une façon d'être ? C'est une posture ? C'est quoi ?
C'est une identité, ouais. C'est son style. C'est tout ça, quoi. C'est sa force.
Tu me disais, Stéphanie, quand on a préparé dans d'autres discussions, que pour certaines femmes, c'était plus compliqué de s'imaginer perdre leurs cheveux que perdre un sein.
Ouais, c'est ça.
Et ça paraît juste fou.
Mais puis je l'entends tellement, en fait, la perte d'un sein, ça se voit pas, en fait, au niveau de la société.
On peut le cacher plus facilement.
La perte de cheveux, c'est compliqué. Et là, on était encore avec une cliente qui nous a dit, non, mais moi, je veux que personne sache que je suis malade. Donc, il faut trouver une solution pour pas qu'on voit que je suis malade. Et si elle perd ses cheveux, on voit qu'elle est malade. En plus, la perte de cheveux est associée forcément à une maladie, donc au cancer. Et le cancer fait peur et est associé à la mort. Donc forcément, c'est compliqué de perdre ses cheveux.
Comment vous voyez l'avenir ? Comment vous vous projetez, toutes les deux ?
Je vais laisser pas aller à Alice, parce que c'est elle qui fait les tableaux, les business plans et les machins.
C'est important.
Déjà qu'on ait le remboursement sécu, ça serait génial.
Donc que les femmes qui font appel à vos produits puissent être remboursées,
ouais.
C'est ça ?
Ouais. Okay. Aujourd'hui, on n'est pas remboursé sécu. On a des aides par les mutuelles, par la CPAM de Vendée, par la Ligue. Mais on n'est pas encore pris en charge par la Sécurité sociale. Donc ça serait bien qu'on soit vraiment une référence nationale et pourquoi pas européenne et pourquoi pas internationale. Ça serait cool aussi.
Ça paraît tellement évident.
Oui, pourquoi s'arrêter ? Et puis, de pouvoir en vivre, ouais. Ça serait bien. Parce qu'aujourd'hui, on est bénévole.
Vous m'avez dit, aujourd'hui, on ne gagne pas un sou, mais on y croit à fond, on se sent missionné.
Voilà. Mais c'est ça, on gagne zéro. Ce qui nous pousse à continuer, c'est vraiment le témoignage des femmes. C'est vraiment ça. C'est leur sourire et de voir qu'elles se retrouvent. Et
ça, c'est gagné déjà.
Oh là là, mais c'est tellement de bonheur.
On n'a pas fait tout ça pour rien.
Oui, voilà.
Donc déjà, on a ça, et puis après...
Mais du coup, si vous allez au-delà des frontières vendéennes, ça se trouve, c'est déjà sans doute le cas.
Ah bah c'est déjà fait. Voilà.
Comment vous positionnez une de vos forces, qui est l'artisanat, faites tout, ça prend du temps.
On fait tout ici, en Vendée. Et puis, je pense qu'en Vendée, il y a des gens super forts. Et puis, on peut recruter des gens super forts en Vendée. Voilà. On est hyper forts en Vendée ou pas ?
Il y a beaucoup de talent.
On est hyper forts, donc...
Stéphanie ?
Non, moi je voulais. On arrive en fin de course. Un mot de la fin, peut-être. On sent bien cette belle énergie, on sent cette envie. On peut que vous dire de continuer et de surtout pas arrêter de courir pour cette mission-là, de continuer à être égérie. Peut-être l'année prochaine, ce sera Alice.
Qui sait ? Vrai.
Pourquoi pas ?
C'est une galère à faire.
T'envoies un dossier en cachette, on ne sait jamais. Mais peut-être un mot de la fin. Qu'est-ce que si vous aviez un message à faire passer sur les pas de chichi, sur ce sujet, sur cette mission, sur ce qui vous anime au quotidien, ce qui vous donne envie de vous lever le matin ?
Sur les pas de chichi, j'en sais rien, mais je sais juste que quand on croit à un projet, faut y aller, quoi. Faut pas trop réfléchir, même s'il y a des montagnes devant nous. Quand on y croit, et je pense que ça se transmet aux autres et les autres qui croient aussi à
Dieu.
Ouais, vraiment. Il faut vraiment faut rester soi-même, alors comme les pets chichis, mais et puis faut y croire, quoi. Faut pas lâcher.
Mm-hmm. Toi, Stéphanie, ça t'inspire ?
Moi, c'est un peu la même chose qu'Alice, c'est-à-dire quand mes enfants veulent pas faire un truc parce qu'ils ont peur, je leur dis mais au pire, il peut se passer quoi ?
En fait, c'est un peu l'idée de vise la lune, au pire tu atterris dans les étoiles.
Au pire, qu'est-ce qui peut se passer ? Ah bah il peut pas se passer. Ouais, vas-y. Et moi j'ai toujours été éduquée comme ça et c'est comme ça qu'on avance. Quoi.
C'est peut-être aussi ce qui fait que vous en êtes là aujourd'hui ?
Oui, je pense qu'on n'a pas peur de grand chose.
Allez, on va rester sur cette belle note, ne pas avoir peur de grand chose, c'est quand même plutôt, plutôt sympa comme, comme idée. Je trouve ça assez même positif, donc ça rentre pile poil dans les cases de l'émission. Donc notre émission Positive Vibes touche à sa fin. Merci beaucoup chaleureusement Alice, Stéphanie,
merci.
Pour ce témoignage particulièrement touchant. Nous allons rendre l'antenne, mais nous ne pouvons évidemment pas vous quitter sans vous partager un grand merci à vous, à tous nos invités pour leur active contribution et qui font de beaux partages, de beaux témoignages. Merci à tous.
Et merci surtout à l'équipe d'IVB, voilà, pour la confiance et l'accueil. Merci à Stéphanie pour la co-animation soir. Axel à la régie aussi, on peut l'applaudir très fort. Et notre correspondant Yann Le Thomas, ou apparemment Thomas Le Yann, voilà, on te, peu importe. On se retrouve très vite sur les ondes de Digradio.
À bientôt.